France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et scientifique aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque semaine, l'un d'entre eux, l'une d'entre elles vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité, philosophe et psychanalyste, a choisi d'évoquer le texte qu'on peut considérer comme l'origine de la psychanalyse. Celui qui, le premier, a fait du rêve une réalité psychique. Celui qui, le premier, a fait de l'inconscient un concept. Concept central, vous avez peut-être deviné, l'interprétation du rêve, signée par le seul et unique.
Freud ne s'est pas intéressé aux rêves en fonction de vues théoriques. Ce sont les malades eux-mêmes, avec une insistance qui a fini par le frapper, qui lui ont fait confidence de leurs rêves. Il a bien fallu conclure que le rêve n'était pas un événement fugace, mais une réalité psychologique à laquelle le névrosé, pour le moins, donnait une importance. Le rêve devenait donc une sorte de matériel psychique appelant des analyses. Quand Freud fit paraître en 1900 son gros livre sur l'interprétation des rêves, il ne rencontra autour de lui que fort peu d'intérêt. Et cependant, il tenait un moyen d'enquête d'une singulière fécondité. Les déformations du rêve lui permirent de déterminer le jeu de censure et de résistance qu'il résume ainsi. Le rêve est une réalisation déguisée d'un désir refoulé.
Bonjour Clotilde Le Guil.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes philosophe et psychanalyste. Vous êtes l'autrice de plusieurs essais. Le dernier, La Déprise, essai sur les ressorts intimes de la désobéissance, est paru aux éditions du Seuil. Est-ce que vous avez reconnu la voix qui a ouvert cette émission?
Non.
C'est Gaston Bachelard,
ah,
en 1950, qui parle de Freud. Et en l'écoutant, en préparant cette émission, cette archive trouvée par notre réalisateur Nicolas Berger, je me suis dit, mais qu'ajouter en fait à cette 1 minute 11 secondes où il dit tout de l'interprétation du rêve de Freud, à savoir la déception au moment de sa réception, le fait que ce ne soit pas théorique mais d'abord empirique, partant des confidences de ses patients, et puis surtout cette thèse, voilà, réalisation d'un désir refoulé. Bah, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus pour présenter l'interprétation du rêve?
Alors c'est vrai que Gaston Bachelard, qui lui-même a écrit sur les rêves, présente vraiment très bien ce que Freud a apporté d'inédit sur le rêve comme phénomène psychique. Moi, ce qui me frappe, c'est que d'abord, Bachelard ici rappelle que l'intérêt de Freud pour les rêves est venu par la clinique et dans l'interprétation des rêves, il rend hommage à Joseph Breuer, avec qui il a écrit les études sur l'hystérie, pour dire que c'est grâce à Breuer qu'il en est venu à s'intéresser au rêve, c'est-à-dire que Breuer lui a tracé la voie. Donc je trouve ça très beau de rappeler que c'est venu par la clinique et par ce à quoi se sont affrontés à la fois Freud et Breuer dans le traitement des névroses hystériques. Et puis il y a un autre terme qu'emploie Bachelard, que je trouve très important, il emploie le terme d'événement. Et je pense qu'on peut considérer avec Freud qu'un rêve peut faire événement pour le sujet. Tous les rêves ne font pas événement, bien entendu. Mais lorsqu'on fait une analyse, on s'aperçoit qu'il y a certains rêves qui sont de véritables événements psychiques. C'est-à-dire que après ces rêves, quelque chose ne sera plus pareil. Il y aura vraiment un avant et un après, comme si le rêve était venu nous montrer quelque chose d'une transformation qui a eu lieu grâce à l'analyse.
Mais à ce point-là, vous êtes convaincu de ça, Clotilde Le Guil, que vraiment il y a certains rêves qui sont comme des événements qu'on pourrait vivre dans une journée, comme une rencontre avec quelqu'un, comme une peine, comme la perte de quelqu'un, comme, que sais-je,
oui,
voilà, un diplôme, un cours, une lecture d'un livre qui nous transcende.
C'est ça, certains rêves, vous employez là aussi un autre terme très important, sont de l'ordre d'une rencontre. Et la rencontre, c'est aussi ce qui peut nous transformer. Alors, ces rêves qui font rencontre ou qui font événement, ces rêves qui nous métamorphosent, viennent aussi prendre acte d'un travail qui est fait dans l'analyse et d'une transformation qui a eu lieu grâce au travail analytique. Hein, ce n'est pas que en soi le rêve nous transformerait, c'est que le rêve est une production psychique qui, lorsqu'elle a lieu et quand on est en analyse, vient dire aussi quelque chose de ce qui se passe pour le sujet en analyse et quelque chose parfois que le sujet en analyse ne peut pas voir. De sorte que on peut considérer que le rêve est toujours un peu en avance sur le rêveur. Et c'est très intéressant, cette temporalité du rêve. C'est fascinant. Parce que quand on fait une analyse, on s'aperçoit, une analyse longue, on s'aperçoit qu'il y a certains rêves qu'on a pu faire au début, qu'on n'a pas pu bien interpréter. Et 10 ans plus tard, on peut interpréter ce que déjà notre inconscient nous proposait d'interpréter.
Et ça veut dire, bon, là, on est directement dans le vif du sujet, Claudine Le Guil, même dans la clinique. Ce qui veut dire que, par exemple, je peux faire un rêve en début d'analyse, ne plus en rêver, peut-être pendant même plusieurs années, mais y repenser 10 ans plus tard ou en re-rêver 10 ans plus tard. Comme si, en fait, tout à coup, on dit « Oh !» Mon inconscient disait, là, repenser, il faut repartir sur ce rêve-là.
Peut-être y repenser, c'est-à-dire... Alors, ça peut être aussi un rêve qui a surgi au cours de l'analyse et qu'on interprète d'une certaine façon par rapport au point où on en est de son rapport à son désir ou de son rapport à son trauma. Et lorsqu'on a terminé son analyse, à la fin de cette odyssée qu'est le parcours analytique, qui peut durer très longtemps.
Mais oui, ça finit quand? C'est la question qui me hante.
On ne peut pas le savoir à l'avance.
Mais... Il n'y a pas un rêve qui nous l'annonce, ça.
Alors, certains rêves peuvent être considérés comme des rêves de fin d'analyse. Encore faut-il pouvoir aussi en prendre acte. Mais ce que je voulais indiquer, c'est qu'à la fin de l'analyse, on a comme une lecture nouvelle du parcours que l'on a fait. Et c'est là qu'on peut revenir sur des rêves antérieurs et s'apercevoir de ce qu'ils nous disaient ou nous montraient avant même que nous soyons capables nous-mêmes de les interpréter.
Alors, ce qui est intéressant, Clotilde Le Guil, c'est que vous avez parlé des rêves comme d'un événement, et j'ai comparé avec d'autres événements, par exemple, de veille, parce que les autres événements, quand on est éveillé, c'est des rencontres avec d'autres que soi, alors qu'un rêve, c'est un événement d'une rencontre avec soi. Ça, c'est quand même un petit peu différent. Quand il m'arrive quelque chose dans la vie, c'est quelque chose, c'est de la contingence, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, qui m'est extérieur. Là, un rêve, c'est une rencontre, un événement d'une rencontre avec soi-même qui ne serait pas soi-même.
Exactement. On pourrait dire que avec le rêve, on rencontre quelque chose de l'autre que l'on est pour soi-même, quelque chose qui est notre propre inquiétante étrangeté. C'est-à-dire que le rêve nous fait passer à l'envers du décor de nous-mêmes, à l'envers du décor de l'être que nous sommes. Et donc, il y a effectivement quelque chose de l'ordre d'une rencontre, mais une rencontre qui nous confronte aussi à un mystère. Et il arrive, quelquefois, que certains rêves fassent événement au point de nous arracher au sommeil. C'est-à-dire qu'ils nous conduisent à nous réveiller. Et on peut l'interpréter
par angoisse,
en différents sens.
Réveiller pourquoi?
Souvent,
par
les rêves qui nous réveillent sont des rêves d'angoisse ou des cauchemars. Mais cela peut être aussi des rêves qui nous font traverser quelque chose et qui nous arrachent à notre sommeil.
D'ailleurs, à ce propos, j'ai une question. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous conseillez de faire? On se réveille à cause d'un cauchemar. Moi, ma technique, c'est vraiment de me lever pour sortir vraiment du cauchemar et me replonger dans un sommeil serein. Mais je me demande s'il ne faudrait pas, en fait, tout de suite se réendormir pour reprendre la voie du cauchemar, aller jusqu'au bout du cauchemar pour voir comment il se transforme.
Ça, je ne sais pas si c'est possible. C'est-à-dire que vraiment, le rêve ou le cauchemar nous confronte à un mécanisme psychique qui nous échappe. Donc, je ne sais pas si on peut reprendre au point où on était. Mais c'est vrai que parfois, on peut avoir ce désir, même dans le cas de rêves délicieux, hein, de reprendre le rêve au point où il s'est arrêté. Mais ce qu'on peut dire des cauchemars, c'est que ils ont quand même une fonction, hein, ils sont pas inutiles, ce sont des expériences pénibles, les cauchemars, bien entendu. Mais lorsqu'on est en analyse, on aperçoit que d'être parvenu à se souvenir d'un cauchemar, parce que les cauchemars, on les oublie, comme les rêves, mais d'être parvenu à s'en souvenir permet bien souvent d'affronter aussi un point d'angoisse qui était resté jusque-là silencieux.
Alors, vous, Clotilde Le Guil, quand vous avez découvert l'interprétation du rêve, c'était à quel âge et pourquoi vous avez choisi aujourd'hui d'en parler? Et j'aimerais dire tout de suite pour les auditeurs et auditrices, on l'a entendu dans l'archive de Bachelard, mais quand Freud sort son livre, on est en 1900, bon, il n'y a pas beaucoup d'écho, c'est plus tard en fait qu'il va y avoir un écho de multiples éditions, 8 éditions, c'est quand même un ouvrage de 475 pages, donc avec beaucoup de rêves, donc qui a beaucoup marqué. Aujourd'hui, dans les années 2020-2026, on a presque un peu digéré la théorie de Freud, elle a moins quelque chose de révolutionnaire. Donc vous, quand vous l'avez lu, qu'est-ce qu'elle a eu de si marquant? Qu'est-ce qu'elle a encore de si marquant? Et pour un lecteur aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle garde de marquant?
Alors, moi je ne pense pas du tout que nous ayons digéré la théorie de Freud. Il est vrai que la psychanalyse est passée en quelque sorte un petit peu, disons, dans les mœurs et puis dans quelque chose de l'esprit du temps. Hein. Mais précisément, je pense que la théorie freudienne du rêve conserve quelque chose de révolutionnaire et qu'il y a même quelquefois aujourd'hui des travaux qui tentent un peu d'effacer la perspective de l'inconscient, c'est-à-dire de s'intéresser aux rêves d'un autre point de vue, d'un point de vue par exemple sociologique. Et donc là, on voit que tout d'un coup, ce que Freud a apporté de radicalement nouveau est comme effacé, comme quelque chose finalement qui se serait perdu. Donc je crois que la dimension...
Même les neurosciences par exemple tente d'effacer aussi cette dimension de l'inconscient.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt pour les rêves, mais qu'il n'est pas sûr qu'il y ait tant d'intérêt que ça pour l'inconscient et la théorie freudienne du rêve. Alors, vous me demandiez comment est-ce que j'ai découvert ce livre, aussi pourquoi est-ce que je l'ai choisi. Alors, j'ai pas eu de doute quand j'ai eu à choisir le livre qui m'avait le plus marqué, disons, dans ma trajectoire. J'ai tout de suite pensé à l'interprétation des rêves de Freud. D'abord parce que c'est un livre que mon père m'a offert pour mes 17 ans, à l'anniversaire de mes 17 ans, où je commençais à m'orienter plutôt vers des études littéraires et philosophiques. Et j'avais été étonnée qu'il me l'offre, parce que lui-même n'a jamais fait d'analyse, et c'était pas, disons, son domaine. Mais il m'a offert ce livre.
Hasard ou c'était choisi?
Non, il m'en a offert plusieurs, puisque je m'engageais dans des études littéraires. Et donc...
Il l'a pas vu dans une vitrine, c'était un choix mûri, il s'est dit ça peut intéresser ma petite Clotilde.
Voilà, c'est ça. Bon, mon père était d'origine hongroise, donc venait quand même de cet univers de la Mitteleuropa commun avec Freud, avait quand même une histoire commune hein, entre l'Autriche de Freud, la Hongrie, et donc je pense qu'il y a eu cette dimension-là, et le nom de Freud représentait quelque chose par rapport à l'histoire de la Mitteleuropa. Bon. Mais ce que je me suis dit, c'est que ce qui est intéressant, c'est que mon père avait pour profession d'être chef opérateur au cinéma, donc il s'occupait de faire l'image, comme il disait, de faire la lumière, et au fond, il m'a offert ce livre de Freud comme pour m'ouvrir une porte vers d'autres images, un autre statut des images, pas seulement les images qu'on voit sur l'écran de cinéma, mais les images du rêve. Et peut-être que c'est pour cela aussi que ce livre, disons, l'a intéressé et a fait rencontre dans le cadeau qu'il m'a fait, c'est que on sait qu'il y a quand même quelque chose de très proche entre la naissance du cinéma, la naissance de la psychanalyse, et que finalement faire l'expérience de voir un film a quelque chose à voir avec un rêve éveillé dans une salle obscure. Donc je l'interprète un peu comme ça aujourd'hui.
Quand vous l'avez lu, ça vous a fait quoi ?
Alors, quand je l'ai lu, j'étais...
C'est un texte
J'ai trouvé très difficile.
Qui est technique. À la fois très imagé, effectivement. Voilà, il y a des rêves. Enfin, voilà, il y a plein de récits de rêves. Hein. Beaucoup de récits de femmes qui vont au marché, qui ne trouvent pas le bon légume, où le boucher est fermé. Quand même beaucoup ça dans les patientes de Freud. Puis beaucoup de rêves de Freud, c'est une auto-analyse hein, aussi en grande partie. Mais voilà, il y a quand même quelque chose de très technique, surtout quand en fait ça soutient une structure qui est celle de la psyché, enfin du psychisme, qui est donc celle de l'inconscient. Donc c'est quand même une théorie qui s'amorce, quelque chose d'assez radical et de rigoureux et solide.
C'est un livre, en effet, qui n'est pas aisé à lire, qui a à la fois une dimension très théorique, avec toute une première partie sur la littérature déjà existante sur le rêve, destinée à montrer ce que Freud va apporter de nouveau, qui n'a pas été dit auparavant. Et puis, il y a une dimension aussi très empirique, puisqu'au fond, Freud part vraiment de rêves concrets, un certain nombre de rêves qui sont ses propres rêves. Et donc, on a quelquefois du mal aussi à en extraire une théorie. Et la première fois que je l'ai lu, finalement, j'étais plutôt sensible à ce qui restait mystérieux dans ce livre. Ce livre m'est pas apparu comme donnant enfin la théorie achevée sur le rêve, mais plutôt un livre comme celui qui a éveillé en moi un désir pour cette autre réalité que Freud appelle la réalité psychique, hein, et qui est celle de l'inconscient. Et donc je pense que c'est aussi par ce caractère empirique, fragmentaire, même quelquefois inachevé, inabouti. Freud lui-même dit à la fin qu'il n'est pas, il ne pense pas que l'édifice qu'il a construit là est achevé.
D'ailleurs, il va y revenir, hein, parce qu'on est quand 1900, donc après 1900, il y a énormément de textes qui vont venir amender, préciser sa théorie du rêve.
Voilà, et je pense qu'aussi c'est ce caractère-là qui fait que c'est un livre sur lequel, moi en tout cas, j'ai beaucoup travaillé en y revenant à différents moments de mon parcours, aussi bien finalement de ma formation, en tant que psychanalyste et en tant qu'analysante, mais aussi dans ma formation intellectuelle. Et j'y suis revenue, c'est comme si on n'en venait jamais à bout. Ouais. Et finalement, il faut aussi considérer ce livre comme étant de l'ordre, comme Freud le dit, d'une auto-analyse, c'est-à-dire que Freud a considéré après coup, 10 ans après la première version de l'interprétation des rêves, que finalement, ce livre avait été pour lui un fragment de son auto-analyse après la mort de son père. Donc il écrit ce livre en 1899, il paraît en 1900, et Freud perd son père en 1896, donc un an à peu près après les études sur l'hystérie, où là il élabore une première théorie avec Joseph Breuer, et il s'aperçoit, parce qu'il faut l'après-coup, hein, c'est ce qu'on disait en commençant, il s'aperçoit finalement que l'interprétation des rêves a été pour lui comme une réponse à ce drame dont il dit que c'est le drame le plus poignant d'une vie d'homme, qu'a été la mort de son père.
Mais en même temps, ce qui m'intéresse, Clotilde de Guille, dans ce que vous venez de dire, c'est le côté d'inachèvement de cette théorie. Il y revient, en fait. D'accord, ça c'est d'un point de vue intellectuel. Mais est-ce que c'est pas aussi le problème des rêves, le problème même de la psychanalyse, c'est-à-dire parfois ce goût d'inachèvement? On a l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout de quelque chose, vous voyez, j'ai encore un problème avec la fin de la psychanalyse, mais vous voyez, quelque chose résiste. Dans le rêve, il n'y a peut-être pas forcément tout. Ou on n'arrive pas à tout comprendre.
C'est ça. Oui.
Les rêves ne disent peut-être pas tout de nous non plus, inversement. Et puis peut-être qu'en fait, on va en psychanalyse en se disant qu'on a envie de tout savoir de nous, mais c'est pas le but. On pourra pas savoir ça. Or, dans l'interprétation des rêves, on ne cesse d'osciller entre ces deux perspectives, c'est-à-dire de se dire oh, mes rêves me dévoilent un monde de moi-même insoupçonné, et en même temps, quelque chose nous échappe quand même de nous-mêmes.
Vous avez tout à fait raison, nous ne sommes pas du tout dans le registre du savoir absolu. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a marqué, c'est-à-dire moi qui commençais à m'intéresser beaucoup à la philosophie, j'ai rencontré là quand même un autre rapport au savoir. Et ce que vous dites sur le rêve est très juste, c'est-à-dire que un rêve, finalement, a toujours ce goût d'inachevé. Et Lacan le reformulera plus tard très bien en 1964 en disant que le rêve ne conclut pas. Le rêve ne nous apporte pas de conclusion. Nous suivons une histoire, mais nous ne voyons pas où ça mène. Et ça s'achève sans conclusion.
Mais c'est super frustrant.
Et c'est là qu'effectivement un rêve nous met au travail. Il nous met au travail de l'interpréter et au fond la conclusion va venir de l'interprétation de l'analysant lui-même qui va pouvoir extraire quelque chose de ce rêve qui se présente comme une énigme.
Donc quand on ouvre l'interprétation, alors ça a été l'interprétation des rêves, maintenant c'est la traduction, c'est l'interprétation du rêve, pour un lecteur, une lectrice qui ne connaîtrait pas, il s'attend à la fois à avoir quelque chose qui dépasse l'idée d'un rêve symbolique, c'est-à-dire qu'il va pas trouver une recette pour interpréter ses rêves, mais qu'est-ce qu'il va trouver alors ? Une théorie de l'inconscient, d'accord, c'est-à-dire qu'il est aussi habité par une partie de lui-même qu'il ne connaît pas. Quoi d'autre ? Est-ce que c'est, on peut juste dire ça comme ça ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette lecture ?
Ben, vous avez raison, la première chose qu'on ne trouve pas, c'est une clé des songes. Effectivement, on ne trouvera pas dans l'interprétation des rêves une clé qui nous permettrait d'interpréter de manière sauvage tous les rêves, que ce soit les nôtres ou ceux de nos proches ou ceux qu'on peut entendre, parce qu'en effet, ce n'est pas du tout la méthode que Freud va découvrir et ce n'est pas le chemin qu'il va préconiser. Donc, ce qu'on découvre d'abord, c'est quelque chose de l'ordre d'une recherche. Je dirais que Freud est au travail, à partir de ses propres rêves, d'élaborer une méthode au sens propre, hein, au sens vraiment d'un chemin qui va le conduire à affirmer à la fin que l'interprétation des rêves est la voie royale d'accès à l'inconscient. C'est-à-dire que jusque-là, il avait quand même pu considérer que, avec Breuer, que les symptômes hystériques étaient aussi une voie d'accès à l'inconscient, à ce qui a été en quelque sorte refoulé.
Qu'est-ce qu'il faut entendre par symptômes hystériques ? Par exemple, des convulsions du corps
ou, oui, au moment
ou
où
des
Freud,
cris
c'est
ou
ça,
de...
au moment où Freud et Breuer se confrontent aux premières patientes hystériques, il s'agit surtout de conversions somatiques. Il s'agit de paralysie, mais il s'agit aussi d'absence, il s'agit de phénomènes de corps, mais aussi de phénomènes qui présente une souffrance, mais une souffrance que la médecine ne peut pas expliquer, qui n'a pas de causalité organique. Donc il s'agit d'une première appréhension de quelque chose qui serait de l'ordre d'une causalité psychique, une souffrance dans le corps, mais qui n'a pas de causalité organique. Et là, avec l'interprétation du rêve ou des rêves, ce qu'on découvre, c'est que Freud nous introduit presque à une nouvelle théorie aussi du temps, de la mémoire et de l'oubli. Hein, il nous dit, dans le champ du rêve, rien ne passe, rien n'est oublié. C'est-à-dire que le rêve, c'est quand même extraordinaire, le rêve. Quand on se réveille, on a toujours oublié une grande partie de ses rêves, voire la totalité. Donc le rêve nous confronte au phénomène de l'oubli. Et en même temps, ce que Freud découvre, c'est que le rêve est une forme de mémoire. Le rêve nous donne aussi accès à ce que nous avons oublié, à ce que nous avons refoulé.
C'est un peu un reste de l'inconscient. Des ruines, parfois, il dit.
Voilà, ce sont des fragments, des restes qui sont comme réveillés. Hein. Mm. Et Freud a cette... on n'a pas encore parlé de l'exergue, mais peut-être que là, on peut en parler par rapport au réveil, hein, parce que c'est assez mystérieux. En exergue de l'interprétation des rêves, il choisit une phrase de Virgile, de l'Énéide, qui dit « Si je ne peux émouvoir ceux d'en haut, je réveillerai ceux d'en bas. » C'est-à-dire, si je ne peux émouvoir les Dieu, je réveillerai les créatures des enfers. On se dit, mais pourquoi cette citation en exergue de l'interprétation des rêves ? Alors, effectivement, il y a l'idée que le rêve peut réveiller les morts, puisque effectivement on peut rencontrer dans ses rêves les personnes chères disparues, qui sont comme ressuscitées, qu'on revoit parfois comme si on gardait une mémoire extrêmement précise de leur visage, alors qu'elles ont disparu de notre existence réelle depuis bien longtemps. Donc ça, c'est une première interprétation. Mais à la fin de l'interprétation des rêves, il reprend cette phrase de Virgile pour dire quelque chose, justement, de nos désirs refoulés. En disant que, finalement, lorsque ces désirs refoulés, indestructibles, qui viennent de l'enfance, ne sont pas parvenus à se frayer une voie dans notre existence éveillée, eh bien, ils se réveillent dans la nuit. Et donc, le rêve nous donne aussi accès à ces désirs dont nous avons pu être séparés, à ces désirs que nous avons oubliés et qui ressurgissent là comme pour se rappeler à nous, pour nous rappeler finalement...
Quel est notre désir ?
Voilà, ce désir indestructible qui est là en nous depuis l'enfance.
Et qu'est-ce qu'il faut entendre par désir, Clotilde Le Guil, dans ce cas-là ? C'est quoi un désir de puissance ? Un désir... c'est pas d'acquérir une nouvelle, un nouveau sac. C'est voilà. Quand on parle de désir, il y a quelque chose de plus fondamental, d'être heureux. Ça peut être juste de la joie.
C'est une dimension fondamentale qui a été extrêmement bien théorisée, explicitée par Lacan après Freud, hein, qui a vraiment bien distingué désir et pulsion. Mais le désir, c'est ce qui a à voir avec la façon dont un sujet intimement va persévérer dans son être, c'est-à-dire ce qui va lui permettre de donner un sens à son existence, ce qu'il y a de plus profond en lui dans la façon dont il souhaite interpréter son existence.
Mais est-ce qu'on peut nommer ce désir ?
Alors, ce désir...
Ou est-ce que, justement, on en prend juste conscience, mais sans vraiment le nommer ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'identifier en tant que
cette
force vitale,
n'est pas un désir de ceci ou de cela. Ce n'est pas un désir d'un objet, hein, ce n'est pas une envie. Hein. Lacan dira que le désir est la métonymie de notre être. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui dit notre être, mais qui court comme ça sous les signifiants. Et donc, ce désir chez Freud, ce que je trouve très nouveau aussi et qui est frappant, c'est qu'il nous invite à ne pas oublier qu'il est indestructible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement, au fond, les événements traumatiques qui laissent des traces ineffaçables. Ça, c'est quand même le début de la psychanalyse, hein, avec la découverte du statut de l'événement traumatique comme événement inassimilable. Mais il y a aussi le désir de l'enfant, ce désir qui est toujours accroché au désir de l'autre, c'est-à-dire au désir que l'enfant a rencontré aussi chez ses parents. Hein, et en même temps, quelque chose qui lui est propre, hein, qui est profondément singulier chez un être et qui a pris forme dans l'enfance.
Est-ce qu'on va écouter un texte ? Parce qu'en fait, je vois que le temps passe, Clotilde Le Guil, mais c'est vraiment passionnant. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui vous a autant frappé, qui fait que vous y revenez sans cesse, Clotilde Le Guil ? C'est que le rêve, voilà, c'est la voie royale d'accès à l'inconscient, mais en fait, au désir, c'est-à-dire à quelque chose qui est indestructible en soi. C'est ça, cette question qui vous porte quand vous relisez ce livre, qu'est-ce qui fait qu'on est là, quoi ?
C'est ça.
Et qu'on persiste.
C'est ça. Peut-être juste une chose pour répondre à la question sur le désir. Je pense à une remarque de Freud qui a un souvenir d'enfance dans l'interprétation des rêves, puisqu'il parle beaucoup de son enfance. Et il se souvient qu'il souffrait d'énurésie quand il était enfant.
De faire pipi au lit.
Voilà. Et à un âge tardif, par rapport à ce symptôme qui, en général, se rencontre plutôt chez les enfants de 3 ans, à l'âge de 8 ans, il est allé réveiller ses parents la nuit et il a fait pipi dans la chambre de ses parents.
Ah oui, donc il était propre et tout à coup il a fait ça à 8 ans.
Et son père était furieux et son père a dit « on ne fera jamais rien de ce garçon ». C'est formidable comme souvenir. Et Freud raconte à quel point cette phrase l'a marqué et qu'il n'a cessé de faire des rêves où il montre à son père, donc après l'avoir perdu, il montre à son père tout ce qu'il a accompli dans sa vie.
Bah oui, parce
le
que
désir de Freud.
Voilà, le désir de Freud, et il faut le dire comme l'a dit Bachelard, voilà, pour Freud, le rêve est un accomplissement d'un désir qui est parfois refoulé, réprimé, mais écoutant tout de suite, on a choisi 3 textes avec Manon de Lasselle qui sont des récits de rêves, et voici le rêve que fait de Freud. C'est un rêve célèbre, il rêve d'Irma, une de ses patientes.
Un grand hall. Beaucoup d'invités nous recevons. Parmi ces invités, Irma, que je prends tout de suite à part pour lui reprocher, en réponse à sa lettre, de ne pas avoir encore accepté ma solution. Je lui dis « Si tu as encore des douleurs, c'est réellement de ta faute. » Elle répond « Si tu savais comme j'ai mal à la gorge, à l'estomac et au ventre, cela m'étrangle. » Je prends peur et je la regarde. Elle a un air pâle et bouffi. Je me dis, n'ai-je pas laissé échapper quelques symptômes organiques ? Je l'amène près de la fenêtre et j'examine sa gorge. Elle manifeste une certaine résistance, comme les femmes qui portent un dentier. Je me dis, pourtant elle n'en a pas besoin. Alors elle ouvre bien la bouche et je constate à droite une grande tache blanche. Et d'autre part, j'aperçois d'extraordinaires formations contournées qui ont l'apparence des cornets du nez et sur elles de larges escarres blanc-grisâtres. J'appelle aussitôt le docteur M, qui à son tour examine la malade et confirme. Le docteur M n'est pas comme d'habitude. Il est très pâle, il boite, il n'a pas de barbe. Mon ami Otto est également là, à côté d'elle, et mon ami Léopold la percute par-dessus le corset. Il dit « Elle a une matité à la base gauche ». Et il indique aussi une région infiltrée de la peau au niveau de l'épaule gauche, fait que je constate comme lui malgré les vêtements. M dit « Il n'y a pas de doute, c'est une infection, mais ça ne fait rien. Il va s'y ajouter de la dysenterie et le poison va s'éliminer ». Nous savons également d'une manière directe d'où vient l'infection. Mon ami Otto lui a fait récemment, un jour où elle s'était sentie souffrante, une injection avec une préparation de propylène, acide propionique, triméthylamine, dont je vois la formule devant mes yeux imprimée en caractère gras. Ces injections ne sont pas faciles à faire. Il est probable aussi que la seringue n'était pas propre.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Extrait de l'interprétation du rêve de Freud. Nous sommes ici dans le deuxième chapitre, la méthode d'interprétation des rêves. Il faut dire que le premier chapitre est un peu un passage en revue de la littérature jusque-là sur le rêve dont Freud veut se défaire, c'est-à-dire l'interprétation symbolique, l'interprétation aussi populaire d'un rêve comme d'un code à déchiffrer, même s'il va garder en fait de ces deux méthodes des choses. Et là, Freud fait quelque chose, c'est un des premiers rêves, un rêve ultra célèbre, vous allez nous dire pourquoi, beaucoup travaillé, et notamment aussi par Lacan, Clotilde Le Guil. C'est ce rêve qu'il fait d'Irma, sa patiente, rêve qui s'étend sur plusieurs pages, mais rêve aussi qui s'étend sur plusieurs pages dans son analyse, parce que Freud va le décortiquer pour comprendre ce qui s'y joue. On va comprendre sa méthode, on va comprendre sa thèse sur le rêve et l'accomplissement d'un désir. Mais avant tout, dites-nous qui est Irma, qu'est-ce qui s'est passé avec elle ?
Alors oui, c'est un rêve très important parce que c'est le premier rêve qui est introduit dans l'interprétation des rêves et donc c'est le rêve de Freud lui-même. Pour approcher ce rêve, il est important de savoir dans quelles conditions Freud l'a fait. Hein. Il l'a fait au mois de juillet 1895, lors d'une nuit d'été. Hein. C'est un peu un songe d'une nuit d'été de Freud. Et il l'a fait suite à un échange...
23-24 juillet.
Voilà.
Précisément.
Voilà. Donc vraiment pendant ses vacances d'été, dans sa résidence de Bellevue. Et il a fait ce rêve suite à un échange qu'il a eu avec son confrère Otto, au sujet de sa patiente Irma, qui était une patiente de son entourage. Et Freud était un petit peu inquiet de savoir comment se portait Irma, et inquiet aussi, dit-il, parce que lorsqu'on accepte de prendre une patiente ou un patient de son entourage, on est toujours un petit peu plus angoissé de la façon dont ça va pouvoir, contaminer quelque chose, des liens avec l'entourage. Donc, Freud a demandé à Otto s'il avait des nouvelles d'Irma et si elle allait bien. Question toute simple. Et Otto lui a répondu « Elle va bien, mais pas très bien. »
Pas génial.
Pas très bien.
Ouais.
Donc, petite phrase qui est restée en travers de la gorge de Freud, mais ce qui est important, c'est
vous dites en travers de la gorge, à dessein.
Oui, c'est-à-dire que exactement à dessein, parce que Freud a comme refoulé ce sentiment de malaise et d'irritation qu'il a éprouvé lorsque Otto lui a répondu de cette façon.
D'irritation ou de culpabilité ?
Alors, pas tout de suite, c'est-à-dire que Freud, suite à cette réponse d'Otto qui l'irrite et qui semble lui reprocher quelque chose, c'est-à-dire en dépit de ton traitement, Irma ne va pas très bien, Freud donc reprend toutes ses notes au sujet de la cure d'Irma. Donc, il se replonge dans ce qui s'est passé dans cette cure, puis il va se coucher. Et c'est là qu'il fait ce rêve. Ce rêve connu sous le titre « Le rêve de l'injection faite à Irma ». Ce rêve que nous avons entendu, et donc qui est un rêve qui est étrange d'abord parce qu'il s'achève sur une formule chimique de la triméthylamine dont Freud nous dit qu'il la voit surgir en caractère gras, c'est-à-dire l'écriture chimique elle-même, hein, AZCH3. Donc ça se termine vraiment par une sorte de
formule. AZCH3.
Voilà, c'est la formule de la triméthylamine. Alors, et surtout, cette formule lui a indiqué vraiment pour être distinguée, puisqu'elle surgit en caractère gras à la fin du rêve. Ce rêve, au premier abord, et Freud va l'interpréter comme ça, est un rêve donc qui montre la façon dont il a été lui-même hanté par les paroles d'Otto, puisqu'il revoit Irma dans ce rêve lors d'une fête, qu'il s'inquiète de son état, qu'il lui fait ouvrir la bouche pour voir ce qu'elle a dans la gorge, ce qui est aussi un moment très important du rêve. Et finalement, ce rêve lui donnerait la cause de l'état d'Irma comme résidant dans une injection qui lui a été faite de triméthylamine, mais avec une seringue qui n'était pas propre, injection faite par Otto. Donc, lorsque Freud interprète ce rêve, qui est très riche, hein, parce que, en fait, dans l'interprétation des rêves, il y a des rêves très courts, de deux phrases, mais il y a aussi des rêves très longs, comme le rêve de l'injection faite à Irma.
Les rêves de Freud sont très longs.
Celui-là est très long.
En général, alors que les rêves de ses patients, patientes notamment, il en dévoile presque moins aussi, parce qu'on a l'impression aussi qu'il y a une prudence à ne pas tout dévoiler, non ?
Il y a quelques rêves dont on peut supposer que ce sont des rêves de Freud et qui sont très courts, mais il ne dit pas que ce sont les siens.
Ah oui ?
En effet. Mais pour dire que la façon dont Freud interprète ce rêve est tout de même, elle aussi, inachevée. Et il va falloir l'interprétation de Lacan dans le séminaire 2, où Lacan va consacrer deux leçons extraordinaires qu'il faut lire sur le rêve de l'injection faite à Irma, où il va montrer quel est le désir qui est en jeu dans ce rêve.
Alors,
pourquoi est-ce que l'interprétation de Freud n'est pas tout à fait satisfaisante ?
L'interprétation de Freud, Clotilde Le Guil, c'est quoi ? C'est de dire, si le rêve est un accomplissement d'un désir refoulé ou réprimé, mais bon, à ce moment-là du texte, c'est juste d'un désir, c'est que je veux voir Irma malade parce que Irma n'a pas suivi le traitement que je lui conseillais de recevoir. Donc, mon désir, c'était qu'elle guérisse, mais elle n'a pas voulu, et donc, du coup, ça n'est pas de ma faute. C'est ça aussi, son désir de ne pas être responsable.
Voilà, l'interprétation que Freud va pouvoir donner, c'est qu'au fond, il rend responsable Otto de l'injection qu'il aurait faite à Irma. Et évidemment, c'est aussi très intéressant, et ça, je m'y suis intéressée plus tard dans la question du toxique, c'est très intéressant, c'est que celui qui a été aussi... qui a subi une forme d'intoxication qui a été empoisonnée, c'est aussi Freud qui a été empoisonné par cette phrase d'Otto qui lui dit que Irma ne va pas bien, et au fond on voit que ça agit en lui comme un poison et que dans la nuit il essaie d'éliminer ce poison. Bon. Et donc l'interprétation de Freud, c'est que finalement ce rêve essaie de le dédouaner de l'état d'Irma et de l'attribuer à Otto. Et Lacan pointe quelque chose d'essentiel en disant on ne comprend pas pourquoi Freud considère qu'il a découvert l'interprétation des rêves avec ce rêve. Parce que ce qu'il dit là, au fond, c'est un désir presque préconscient qu'il connaît. On pourrait presque dire que c'est un désir qu'il connaissait même avant de faire le rêve. C'est-à-dire qu'il voudrait ne pas être responsable de l'état d'Irma qui va bien mais pas très bien suite à son traitement. Voilà. Et Lacan nous dit... Il y a quelque chose que Freud ne voit pas lui-même dans le rêve, comme si le rêve l'avait devancé aussi, mais qui lui fait quand même dire que ce rêve fait événement et qu'il est celui par lequel il a découvert l'interprétation des rêves. Et ce sur quoi Lacan met l'accent, c'est la formule de la triméthylamine. C'est le surgissement de ces lettres comme une formule sacrée que personne ne prononce. Ce n'est pas une parole, la formule de la triméthylamine. C'est une formule sacrée, une écriture. Et ce que Lacan nous dit, c'est qu'au fond, ce que Freud découvre dans ce rêve, sans même le formuler exactement lui-même dans son interprétation, c'est que le rêve est de l'ordre d'une écriture, d'un texte sacré qu'il va falloir déchiffrer à la lettre, littéralement. Non pas se laisser hypnotiser par le sens apparent de l'histoire du rêve, mais l'aborder, ce que Freud dira, comme un rébus, c'est-à-dire à partir des lettres elles-mêmes, des signifiants qui viennent s'articuler en deçà des images.
Mais c'est intéressant, Claude Le Guil, parce qu'effectivement, Freud le dit d'ailleurs dans l'interprétation des rêves, il parle d'une langue étrangère, de deux langues, parce qu'il y a le contenu manifeste du rêve, ce qu'on peut raconter par exemple quand on se réveille en disant « Ah, j'ai rêvé de ça », et puis le contenu latent. Donc il parle lui-même d'une langue étrangère, mais ce qui me frappe, c'est que Freud ne cesse de dire en fait l'interprétation, et c'est vraiment le principe de la psychanalyse, doit venir du patient lui-même. Or là, c'est Lacan qui trouve le vrai sens du rêve.
C'est-à-dire que Freud a quand même interprété son rêve.
Oui, mais il s'est trompé apparemment.
Non, il s'est pas trompé parce qu'il a c'est pas ce que dit Lacan et c'est pas ce que je dis. Non, il s'est pas trompé parce qu'il a vu que c'était ce rêve qui lui ouvrait la voie à l'interprétation des rêves.
Donc il a senti quelque chose.
Voilà, et il s'en est tenu à cette question d'interpréter le rêve à la lettre. Mais simplement, ce qu'il ne dit pas et ce que Lacan avance, c'est que le désir de Freud, puisque on échangeait tout à l'heure sur le désir de Freud qui se manifeste dans ce rêve n'est pas seulement le désir de se dédouaner de l'état d'Irma. C'est un désir qui est bien au-delà. C'est le désir de découvrir le sens des rêves. Et c'est ce désir-là, finalement, qui traverse Freud dans ce rêve de l'injection faite à Irma.
Mais vous, Clotilde Le Guil, en tant que psychanalyste, est-ce que vous pensez qu'on peut se tromper? Est-ce que vous pensez qu'on va surinterpréter que, par exemple, on va aller dans une interprétation qui va être la bonne, par exemple, comme celle que Freud fait, effectivement, en insistant sur ce rêve, en le racontant, en ouvrant son livre avec ça, il sait qu'il y a une importance, mais il va pas assez loin. Alors comment on fait pour lui dire pousse un peu Freud là, t'es presque à le dire, et c'est pareil avec un patient, c'est-à-dire que en fait on doit se dire un analysant, on va se dire non mais pourquoi il ne va pas, moi je comprends le sens de son rêve mais il n'y va pas et c'est à lui d'y aller.
Voilà.
Comment on négocie ça? Parce que parfois alors il y a de la résistance, d'accord, mais il y a aussi le fait que tout à coup on n'y arrive pas à aller jusqu'au bout.
Voilà, c'est là où l'interprétation de l'analyste peut aussi souligner un élément qui semble sans importance dans le rêve et qui pourtant fait résonner quelque chose comme un signifiant.
Donc on a besoin quand même de quelqu'un d'autre.
Ah oui, voilà, effectivement, on s'analyse pas tout seul. Freud, lui, s'est analysé seul, seul et en même temps en échangeant beaucoup dans ses correspondances avec Fliss. Hein. Et d'ailleurs, à propos de ce rêve-là, dans une lettre à Fliss, il dit qu'il pense que, il imagine que peut-être un jour il y aura une plaque sur la maison de Bellevue en disant ici, Freud a découvert l'interprétation des rêves. Donc en fait, il a quand même besoin d'avoir ce destinataire. Mais en effet, dans une analyse, on a besoin d'adresser ses rêves à l'analyste et l'analyste est là bien sûr aussi pour, par son interprétation, soit soulever une énigme, soit mettre l'accent sur un détail qui
peut passer inaperçu. Vous parliez de signifiant, c'est-à-dire ?
Alors, parce que c'est le terme qu'emploie Lacan, c'est-à-dire, disons, on pourrait dire un, ça peut être une syllabe, mais ça peut être un terme qui surgit dans un rêve, un mot, hein, et à le prendre comme signifiant, c'est-à-dire ne pas nécessairement s'intéresser à son signifié, à sa signification, mais à sa résonance littérale. Il y a un exemple que donne Freud sur le signifiant, parce que c'est vrai que c'est compliqué, que je trouve joli, où il montre que déjà dans l'Antiquité, il y a pu avoir une intuition de ce qu'allait être l'interprétation des rêves. Il a trouvé dans un texte du IIe siècle la mention d'un rêve fait par Alexandre de Macédoine au moment où il allait assiéger Tyr, la ville de Tyr. Et il a un moment un peu entre vision et rêve où il voit sur son bouclier un satyre. Et Aristandre va lui interpréter, sans le savoir, son rêve, en lui disant « mais satyre, le satyre en grec, hein, c'est difficile de traduire les signifiants en grec, satyre, c'est aussi Tyr est à toi. » C'est-à-dire, tu es en train d'assiéger Tyr et tu vas, le rêve que tu fais dit quelque chose de ton désir que Tyr soit ta ville.
Voilà. Un homme qui a soigné son père malade et qui a beaucoup souffert de sa mort, fait peu de temps après cette mort le rêve absurde suivant. Son père était de nouveau en vie et lui parlait comme d'habitude, mais, chose étrange, il était mort quand même et ne le savait pas. On comprend ce rêve si après il était mort quand même, on ajoute à la suite du vœu du rêveur. Et après ne le savait pas que le rêveur faisait ce vœu. Le fils avait, pendant qu'il soignait son père, bien souvent souhaité sa mort. Exactement, il avait eu la pensée charitable, la mort devrait mettre fin à ses souffrances. Dans le deuil qui avait suivi, inconsciemment, il s'était reproché ce souhait dicté par la compassion, comme si par là il avait vraiment contribué à raccourcir la vie du malade. L'éveil des tendances infantiles contre le père permit d'exprimer ce reproche sous la forme d'un rêve. Mais justement, l'opposition totale entre la source du rêve et la pensée de la veille devait rendre ce rêve absurde. Les rêves des morts aimés posent à l'interprétation des problèmes difficiles qu'on n'arrive pas toujours à résoudre de façon satisfaisante. On en peut chercher la raison dans l'ambivalence affective à l'égard du mort. Il est habituel que dans de pareils rêves, le mort soit tout d'abord traité comme vivant, puis que brusquement on considère qu'il est mort, et que dans la suite, ils vivent cependant. Je suis arrivé à la conclusion que ces alternances de vie et de mort représentent l'indifférence du rêveur. Cela m'est égal qu'il soit vivant ou mort. Bien entendu, cette indifférence n'est pas réelle, elle est désirée. Elle est destinée à déguiser les attitudes affectives, souvent contradictoires, du rêveur. Elle est ainsi la figuration en rêve de son ambivalence.
Extrait de l'interprétation du rêve de Freud, nous sommes aussi ici, pardon, au sixième chapitre, le travail du rêve. Clotilde Guil, c'est vous qui avez choisi ce texte. Alors c'est intéressant parce que Freud le place dans une section qui s'appelle « Les rêves absurdes, l'activité intellectuelle en rêve ». Alors évidemment, il n'y a pas de rêve absurde pour Freud, il n'y a pas de rêve innocent non plus. Et là, ce rêve d'un homme rêve que son père est vivant. Alors même qu'il est mort. En quoi c'est un rêve, voilà, marquant, peut-être typique, même si je sais que Freud parle de rêve typique en parlant de rêve de nudité, comme rêve d'examen, etc., ou de mort de proches, mais là c'est quand même le cas aussi. Alors qu'est-ce qu'il a de marquant, ce texte ?
C'est un rêve là qui ne fait que deux lignes, hein, où donc, après avoir soigné son père malade, un fils rêve qu'il revoit son père, qui se tient devant lui, qui lui parlait comme avant. Pourtant, il était mort, mais il ne le savait pas. Donc, une seule phrase, deux propositions. On peut supposer que c'est un rêve de Freud. Freud qui venait de perdre son père, et qui d'ailleurs, juste avant de citer ce rêve, cite un de ses propres rêves sur son père, où il se souvient que sur son lit de mort, dans le rêve, son père, il avait eu cette idée que son père avait le visage de Garibaldi, et donc Freud interprète déjà ce rêve en disant que ça reflète le désir qui serait aussi celui de tout père d'apparaître comme un grand homme sur son lit de mort et aussi après sa mort. Bon. Et donc là, on a ces deux lignes qui sont très étranges puisque il est question à la fois de retrouver le père qui est mort. Alors ça, on pourrait dire que ce n'est pas très étrange, puisque on pourrait dire que c'est la manifestation du désir de revoir l'être disparu. Mais ce qui est étrange, c'est la seconde partie de la phrase « Pourtant, il était mort, mais il ne le savait pas ». Et donc, Freud va s'intéresser justement à la partie absurde. Hein, vous disiez qu'il le rangeait dans les rêves absurdes, parce que c'est cette deuxième partie qui est absurde. La première partie, elle ne fait pas mystère. Hein. Il s'agit du désir de revoir son père, de le retrouver. Mais ce qui est mystérieux, c'est la deuxième partie. Qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Pourtant, il était mort, mais il ne le savait pas. Et donc, Freud va interpréter cette partie-là.
C'est vraiment une phrase du rêveur. Enfin, en tout cas, on imagine.
C'est vraiment une phrase,
On est dans l'interprétation, mais c'est une phrase du rêve.
Oui, une phrase du rêve. Et vraiment, là, on est dans la littéralité. Et Freud va l'interpréter en deux temps. D'abord, par rapport au fait que, ayant veillé son père, ayant veillé son père avant qu'il meure, ayant assisté à l'agonie de son père, le fils a pu avoir ce désir inconscient que son père soit mort plutôt que de vivre dans de telles souffrances. Hein, ce vœu qu'on peut avoir quand on a un parent malade, qu'on le voit dans un état de souffrance, que ces souffrances soient abrégées. Donc ça peut être ce désir-là, c'est-à-dire qu'au fond, lorsque son père était vivant, eh bien, il l'a vu comme déjà mort, sans que son père le sache. Mais Freud interprète ensuite cela à un deuxième niveau qui renvoie au désir infantile dont on parlait au début de l'émission, à ce désir indestructible, et qui serait ce désir qui revient dans le rêve, le désir du petit garçon qui, lorsqu'il voyait son père si grand, si fort, son père qui le dominait tellement, comme les enfants voient toujours leurs parents, hein, en les idéalisant, eh bien, ce vœu du petit garçon, un jour, je serai comme papa, et peut-être même je le dépasserai. Et peut-être qu'un jour, même quand il sera mort, moi, je serai toujours là.
Donc c'est un désir quand même ici inavouable. Il nous reste très peu de temps, Clotilde Le Guin, mais juste en fait... Voilà, quand Freud dit le rêve est un accomplissement de désir, même quand il ne semble pas l'être, par exemple quand on est frustré dans un rêve, quand on est en colère ou un cauchemar, même s'il reviendra plus tard sur la répétition du trauma à travers les cauchemars, là dans l'interprétation du rêve, il en est pas là. Donc là, c'est pas seulement le désir de voir son père mort, mais c'est un désir en fait de dépasser le père. Est-ce que tous les rêves ont en creux un désir qui est aussi inavouable ? Parce que là, vouloir tuer le père, c'est inavouable.
Alors, c'est pas seulement un désir de dépasser le père, parce que c'est aussi une confrontation, et c'est ce que dit Lacan dans le séminaire 6, c'est que c'est aussi une confrontation, c'est un rêve qui est au bord du cauchemar, hein, vous l'avez dit, c'est aussi une confrontation avec peut-être sa propre mort à venir, parce qu'une fois qu'on a perdu son père, eh bien, on a perdu aussi le bouclier qui nous séparait de la mort, c'est ce que dit Lacan. Donc c'est aussi un rêve qui à la fois le protège de la perspective de sa propre mort, tout en le confrontant au retour de son père. Est-ce qu'il y a toujours une dimension inavouable? On peut dire qu'il y a toujours une dimension qui nous confronte à quelque chose d'indicible, qu'il s'agit d'essayer de dire, mais qui n'a jamais été dit.
Et vous, encore aujourd'hui, vous relisez l'interprétation des rêves, Clotilde Le Guil, ça continue, vous continuez à découvrir des choses?
Je continue à découvrir des choses et surtout je me suis aperçue à quel point ce livre finalement avait compté même dans ma propre trajectoire, disons, d'autrice, hein, puisque le premier essai que j'ai écrit en 2008, Les Amoureuses, Voyage au bout de la féminité, c'est un essai dans lequel je me suis vouée à interpréter un rêve à partir d'un film, Mulholland Drive, qui est donc un film qui nous plonge à la fois dans un rêve et dans un cauchemar et dans un réveil. Et finalement, il y a eu effectivement une sorte de, je pense, de marque qui m'a conduit depuis la rencontre avec ce texte de Freud à 17 ans jusqu'à mon premier livre, nombreuses années plus tard, hein, à vouloir interpréter un rêve, ici le rêve de Diane Selwyn dans Mulholland Drive.
Tomorrow, so they say, will be a lovely day. A bright new sun will suddenly break through. But I don't want to see tomorrow unless I see it with you. Tomorrow, so I hear, the clouds will disappear. The door to happiness will open wide. But I don't want to see tomorrow unless you're there by my side. Don't want to walk alone, don't want to dream alone. Just want you close to my heart.
Cette chanson, Clotilde Le Guil, pour introduire cette séquence de fin d'émission après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, mais votre vie nocturne hein, aussi. Donc Freud, l'interprétation des rêves, place maintenant à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais que vraiment vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ?
Ah non, c'est un auteur que j'aime beaucoup, mais j'ai choisi un livre justement de cet auteur qui m'a résisté et qui m'est même tombé des mains, mais la façon dont il m'est tombé des mains a compté aussi dans le fait que je revienne à la psychanalyse. C'est la critique de la raison dialectique de Sartre, 1960. J'ai quand même réussi à le lire jusqu'à la page 230 à peu près, parce que sachant qu'il y a à peu près 1500 pages puisqu'il y a deux tomes. Et pourtant, c'est un livre qui est très intéressant et qui mérite d'être travaillé.
Moi, je l'ai étudié 6 mois.
Ah, il faut 6 mois.
Mais j'ai pas tout lu. En fait, je pense que ça se lit pas de A à Z, quoi.
Voilà. Moi, je m'étais beaucoup intéressée à L'être et le néant, que j'avais découvert l'année de l'agrégation et par des cours de Renaud Barbaras que j'avais beaucoup aimé. Et donc, j'avais envie de faire un doctorat sur Sartre, sur l'existentialisme. Et donc, je devais lire aussi La critique de la raison dialectique. Et là, il y a quelque chose qui était peut-être asphyxiant, enfin, d'un tout savoir pour moi, laissait plus de place, en fait, à cette question du souffle, puisque c'est le titre de l'émission. Et donc, finalement, je n'ai jamais fait cette thèse de philosophie sur Sartre, mais bien des années plus tard, j'ai fait une thèse sur le rapport de Lacan à Sartre.
Donc, c'est intéressant, parce que juste en quelques secondes, Clotilde Le Guil, ça veut dire que là, c'est la rencontre avec un texte qui vous a fait changer de trajectoire par rejet presque de ce texte. Ce que produit souvent la thèse, d'ailleurs, par la minutie, la recherche, les conditions difficiles matérielles dans lesquelles on doit produire une thèse, en général en France. Donc là, c'est vraiment le texte qui vous a, on va dire, dégoûté.
C'est-à-dire que j'avais perdu le fil du désir. Alors déjà, L'être et néant, c'est quand même un texte difficile à lire.
Ah, mais les exemples sont géniaux.
Mais voilà, les exemples sont géniaux. Il y avait quelque chose d'une philosophie concrète, d'une phénoménologie concrète qui m'avait beaucoup plu. Et finalement, j'y suis revenue beaucoup plus tard, lorsque je me suis intéressée au rapport de Lacan, au concept de Sartre, et notamment au désir et au manque à être.
Fallait repasser par la psychanalyse. Voilà. Merci beaucoup, Clotilde Le Guil. C'était un plaisir de vous recevoir. J'aurais pu parler encore des heures du rêve et de Freud avec vous. De vous, on peut lire l'excellent essai La Déprise, essai sur les ressorts intimes de la désobéissance, séparé aux éditions du Seuil. Jeu, une traversée des identités. Vous y citez ce rêve d'Irma. C'est aux éditions PUF. Et aussi, au Seuil, les amoureuses voyagent au bout de la féminité. Pour lire l'interprétation du rêve de Freud, c'est disponible aux éditions PUF. Un grand merci à Manon Delasselle, Corinne Amar, Nicolas Berger à la réalisation et à la lecture des textes, et à Élise Le à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.